Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis. Et
c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Aujourd'hui, je ne dis pas bonjour aux personnes qui sont en régie puisque je ne suis pas dans les locaux de Divergence. Je suis dans l'atelier de l'artiste que nous recevons aujourd'hui et qui s'appelle Arcane. Salut.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Bonjour, bonjour. On teste quelque chose de nouveau aujourd'hui. Arcane ne peut pas se déplacer parce qu'il est un peu blessé, on va dire.
Arcane a fait des galipettes au ski.
Du coup, on est dans son atelier, mais on reste sur le même format. Tu vas nous parler un petit peu de toi et on va commencer un peu comme je fais d'habitude avec les artistes, à savoir ton parcours. Quel est ton parcours, d'où tu viens, comment tu t'appelles?
Ok. Bon, je vais m'introduire alors.
Vas-y, introduis-toi.
Donc, je m'appelle Arnaud de Jésus Goncalves. Je suis originaire d'Avignon. Mmh. Et je suis né un beau matin d'un 23 mai 1993. Et du coup, voilà, j'ai très rapidement, comme la majorité des artistes, je pense, qui baignent dans ce milieu. Et je dis bien une majorité parce qu'il y a d'autres schémas qui existent. Mais voilà, depuis tout petit, j'ai cette forme d'autisme, quoi, vers la feuille, vers le crayon, le dessin.
Ah, donc toi aussi, depuis petit, tu
oui,
dessines, quoi.
Oui, okay. Oui, mais vraiment beaucoup, quoi. Mm-hmm. Et, je pense que c'est aussi ce qui a dirigé l'esthétique un peu plus académique ou vraiment le rapport à la technique qui me plaît, qui m'est assez cher. Mm-hmm. Et donc, voilà, toujours beaucoup de dessins. La peinture, c'est arrivé bien plus tard. Et justement, ma première introduction, on va dire... au mur, on parlera dans un second temps de la partie atelier, mais j'ai fait mes premiers pas, on va le dire très vulgairement, dans le graffiti, dans le sens où ça a duré un an, cette carrière de vandale, de store dégueulasse.
Ah, c'était une carrière
c'était,
flash.
C'était expéditif, quoi.
Ah, mais du coup, explique-nous un peu pourquoi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le graffiti?
Alors, au tout début... Donc j'avais, je crois que j'avais toutes les semaines ou tous les mois, j'avais 5 euros d'argent de poche. Et j'allais en kiosque, parce qu'à l'époque, il y avait des kiosques où on découvrait le graffiti. C'était non pas par les réseaux, parce que c'était pas encore assez médiatisé. Mais j'étais abonné à les 3 ou 4 magazines qui niquaient tout, quoi, à l'époque.
Ah,
il y avait
ouais.
Graph Bombs, Inner City, Graffiti All Star ou des choses comme ça.
Ouais, ouais.
Et en fait, je bouffais ces images, quoi, et je voyais ces bandes comme ça sur des thématiques. Avec ses wild styles, ses couleurs, le travail des fonds, des personnages, avec des notions de technique, mais il était complètement dingue, quoi. Mm-hmm. Et que je comprenais pas encore, parce que j'avais 11 ou 12 ans. Et je voyais ces grands dessins sur des murs et je fantasmais ça, quoi. Vraiment, okay. Je me disais, mais putain, mais c'est dingue, quoi. Donc, en fait, assez rapidement, j'ai cherché à avoir un rapport un peu plus proche, quoi, avec cette culture-là. Et du coup, très jeune, je suis allé toquer aux portes du magasin Keep Fire. À l'époque, j'en place une pour Polo. et toute la team du coup d'Avignon. Donc, c'est là que j'ai rencontré énormément de gens qui aujourd'hui sont encore dans ce milieu-là,
milieu,
qui
ouais.
sont les premiers à m'avoir plus ou moins introduit, qui m'ont pris un peu sous leur aile sur les terrains vagues d'Avignon, à savoir le parking des Italiens, majoritairement.
Okay.
On a fait nos. Enfin, en tout cas, j'ai fait mes débuts. Et du coup, assez rapidement, acheter une première bombe, puis aller dans des jam sessions, faire des gros barbecues, faire des après-midi peinture, chercher des spots abandonnés dans le Vaucluse, dans des magasins désaffectés ou
ah
des
oui,
usines.
Ah oui, donc quand même,
rapidement, ça a tombé vers de l'urbex en même temps
que... Parce que quand même, bon, si ça, elle n'a pas duré longtemps, cette carrière graffiti, mais quand même, tu t'es donné à fond dedans.
Quand je parle de carrière graffiti, je parle uniquement du travail de la lettre et de l'aspect vandale, où... poser son flop ou son blaze, parce que je maîtrisais pas mes lettres, enfin j'en étais pas du tout satisfait. Mm-hmm. En fait, rapidement, je me suis dit, mais moi, je sais faire quoi, en fait? Je sais dessiner. Et mon background, il était là, j'avais des qualités en dessin. J'étais un très mauvais coloriste, je ne savais pas peindre, je ne savais pas jouer avec les couleurs.
Okay.
Par contre, j'avais des notions de dessin assez fortes, ouais. Parce que je m'étais toujours buté à ça quand j'étais petit. Et j'avais quand même cette frustration de, ce trait, malgré un caps, un skinny, ou un banana, ou un fat, je n'arrivais pas à gérer ça, donc je me suis acharné, puis à force,
j'ai fini par
maîtriser complètement ce trait, et me séparer définitivement de la lettre, et me dire, en fait, non, moi je suis bon pour le travail d'environnement, décor, personnage, et donc j'ai focus sur ça. J'ai focus sur ça, et j'ai fait pendant 5-6 ans, mais tout début, c'était clairement de la décoration. Des chambres d'enfants, j'en ai bouffé, genre je pouvais faire des Cars et des Shrek et des conneries, et je les ai...
Alors, on revient rapidement sur la lettre, parce que je crois savoir que du coup, le nom que tu avais déjà à l'époque dans le graffiti, Arcane, c'est celui que tu as gardé aujourd'hui.
Ouais.
Est-ce que, comme tous les artistes que j'ai pu interviewer et qui m'ont parlé de graffiti, dans ce nom, il y avait des lettres qui étaient bien pour la calligraphie?
Exactement, ouais. C'était cette synergie quoi, avec la lettre, avec la dynamique... Le K au milieu, enfin, il y avait quelque chose d'assez. C'est des lettres assez tranchantes, quoi. Et je pense que c'est à force de lire des Blaise où tu vois rapidement les dynamiques que tu peux mettre en place. Mm-hmm. Et ça me plaisait, cette combinaison de lettres. Et en fait, quand j'étais petit, j'étais complètement geek du dessin, mais aussi des jeux vidéo. Et notamment, je jouais à un jeu qui a bouleversé mon enfance, c'était Diablo 2, où j'ai passé des nuits entières, et il y avait un lieu qui s'appelait le Sanctuaire des Arcanes.
D'accord.
Sauf que c'était orthographié avec un C,
et, oui,
et que bien plus tard, j'ai pris connaissance de cette définition, quoi, qui relate un peu plus des sciences ésotériques ou des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer. Mm-hmm. Et ça me plaisait énormément, parce qu'à chaque fois qu'on me demandait, ouais, mais pourquoi Arcane? Je dis, je sais pas, j'aime bien... Je savais pas trop
mystérieux.
Le côté mystérieux. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, que ce nom, l'essence même, c'est cette définition. Ça m'a plu, cette idée. Donc, j'ai gardé ça en clin d'œil.
Parce que pour un nom de graffeur, c'est un peu long, quoi. Enfin, souvent, il y a pas beaucoup de lettres.
Oui,
je pense à d'autres graffeurs, effectivement, les mots sont plus courts. Bah, parce qu'il y a aussi le côté, il faut pouvoir le faire assez vite.
Et comme je me suis complètement détaché de cette démarche, la question, elle était vite répondue.
Donc, tu l'as quand même conservé aujourd'hui, ce nom. Tu disais que tu t'es détaché de tout ce travail de lettrage. Et après, tu t'es mis au dessin et tu faisais des décos. Donc, Cars, Toy Story, tout ça.
Ah ouais, toutes ces merguez-là. Mais qui ont façonné, en fait, une technique.
Ouais.
Et qui m'ont acheté une liberté aussi.
Ouais.
Enfin, une liberté. C'est un bien grand mot, parce que
c'est
toujours très, très difficile. Après que je parle de liberté, je parle de mon rapport au travail. Mm-hmm. Mais j'avais envie de vivre de ça.
Ah ouais.
De me dire... Mais pas de faire de la déco toute ma vie.
Bah non, bien sûr.
Pas du tout.
Mais de pouvoir peindre...
J'aspirais à d'autres choses. Mais je pense que j'étais encore, et je suis toujours, c'est le travail de toute une vie, mais... en recherche d'une identité artistique qui nous soit propre, en fonction de nos influences. Mais en fait, ça m'a appris la technique, quoi.
Eh oui.
Ça m'a appris la technique, le fait d'explorer tous ces sujets, d'essayer de comprendre comment on traite de l'eau, comment un sujet, quand il passe dans l'eau, comment fonctionnent les couleurs, comment fonctionne la perspective, comment fonctionnent les proportions.
Ouais, bien sûr. Les donc reflets, ce les travail ombres,
du,
les machins,
du dessin, donc je l'avais déjà en place. Par contre, les couleurs, moi, mais c'est un enfer.
C'est une tannée, quoi.
Je vais pas t'ouvrir le dossier des premières fresques.
Bon, là, de toute façon,
c'est des reliques, quoi. C'était tellement moche.
Tu faisais des décos, donc t'avais des thèmes imposés, donc t'avais forcément des couleurs imposées. Est-ce que ça t'a aidé, justement, le fait d'avoir un code couleur quand même déjà? Si tu fais Toy Story,
ça t'aide à les comprendre.
Ouais, voilà.
Tu comprends forcément la force qu'il peut y avoir entre des couleurs complémentaires, alors que c'est un terme que tu connais pas encore. Mm-hmm. Et rapidement, tu te dis, putain, le violet et le jaune, hein, ça matche bien, mais pourquoi?
Ah ouais.
C'est théorique, en fait.
Okay.
Et toute cette théorie, tu la prends sur le tas, à force de faire, quoi. Donc, petit à petit, ça rentre et ça... Tu commences à créer des automatismes.
Ok.
Donc, voilà, c'est vraiment... vraiment, je pense, l'époque charnière, c'est vers 14 ans, 14-15 ans, où j'ai commencé à... J'étais pas bon.
Ouais.
Mais pour quelqu'un qui a 14 balais, je pense que je me démerdais.
Ouais, tu te démerdais bien, quoi.
C'est plus que correct. Après, tu gagnes petit à petit en maturité.
Et
tu commences à chercher d'autres sujets, donc tu développes ton travail personnel. Et en parallèle, voilà, tu répondais à des plans. Enfin, j'avais pas froid aux yeux, quoi. J'avais 15 ans. Ma mère, elle me disait, c'est bon, tu veux de l'argent, bah, tu vas travailler. Tu vas travailler.
Mais donc dès ton adolescence, comme ça, donc tu t'es déjà sur des plans, des décos, des machins.
J'étais déter.
Ah ouais, grave.
C'est le jour de mes 18 ans. Je m'en rappelle. Je crois que j'avais même fait la démarche avant. Il m'avait dit non, que c'était pas possible. Mais j'avais appelé. C'était pas quand j'avais 17 ans. J'avais un client, enfin que j'avais démarché au culot, quoi, à Avignon, une toute petite boutique, quoi. Donc j'arrivais avec mon book imprimé mais toute ma, je sais pas, toute mon innocence et ma bonne volonté, quoi. Il m'a dit, bah, vas-y, tu veux faire une déco, bah, écoute, je te file un billet. Bon, à l'époque, c'était peut-être 150 euros, un truc comme ça. Mais quand t'as 16 ans ou 17 ans et qu'on te propose 3 billets de 50 euros pour dessiner, mais
énorme.
T'es complètement dingue, t'es complètement fou. Tu dis, putain, il y a quelqu'un qui me fait confiance et je vais essayer de faire un truc qui va lui plaire. Et donc j'aimais ce rapport-là. Et comme j'étais terrifié par l'avenir et que j'avais pas envie d'avoir de métier, que pour moi, mon métier, c'était la peinture, je me suis dit, bah, autant s'y mettre. Et donc, je me suis mis auto-entrepreneur, quoi, à 18 ans.
Ah ouais ? Purée, mais ouais, t'as démarré hyper jeune, quoi, en fait.
Ouais, ça fait... Bah là, j'ai 30 ans maintenant, donc... ça fait 15 ans que je fais ça, quoi.
Ouais.
Ça fait 15 ans que je fais ça, et grosso merdo, ça fait 5 ans que je vis confortablement.
Ok.
Mais ça fait... Ouais, il y a eu 10 années de labeur et de... Vraiment, tu sais pas vraiment si tu vas t'en sortir le monde d'après.
Mais en attendant, mais tu t'accroches.
En fait, tu t'accroches. Et,
ouais. Et puis et quand même, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui te... même quand t'es dans une période de doute, qui te... un petit plan qui tombe et qui te raccroche un peu à ce rêve, quoi. Enfin, à cette volonté de continuer. Ouais.
Puis des bonnes rencontres aussi. J'ai eu la chance de rencontrer tellement de gens. Le fait d'aller vers les autres... Et puis même de continuer, parce que j'ai arrêté cette activité entre guillemets vandale, mais je faisais quand même des... quand on allait au parking des Italiens, ou sur des murs semi-légaux en ville, je faisais beaucoup de collages aussi, des choses comme ça.
Ah ouais.
Pour continuer à médiatiser en fait.
Ok.
Mais je préparais des peintures en atelier, parce que j'avais pas la technique et l'audace de me caler 6 heures. Moi, il me fallait au moins 6 ou 7 heures, quoi, pour faire un truc correct.
Ah ouais.
Donc je me suis dit, j'ai pas envie de faire une merguez et de laisser mon nom. Donc je préparais des peintures chez moi. Je remercie mon père pour ça, mais à mes 15 ans, il m'a dit, allez, on va sortir la... Putain, je sais même plus ce que c'était, cette voiture. C'était un enfer. Et il m'a dit, je sors la voiture du garage et
on y va, quoi.
Et c'est ta pièce.
Waouh. Ah, sur la voiture ?
Non. Non, dans le sens où...
Ah, le garage, c'était ta pièce.
J'ai eu la chance d'avoir...
T'avais un petit atelier, quoi.
Mon atelier.
Wow.
C'était magnifique.
Ça, c'est classe.
Donc, quand tes parents... Bon, en fait, c'est plus que ma mère était à bout de nerfs de voir... C'était Hansel et Gretel, quoi. Il y avait de la peinture dans toute la maison, sur les traces des... Je laissais toujours un peu de fusain, de craie ou de... Et voilà, je disais, non, mais allez, stop. Tu as ta pièce, tu évolues là-dedans, tu fais tes trucs... Donc avoir cet espace-là, c'était mon temple.
Donc déjà, en plus, jeune, tu avais cette conscience qu'il te fallait un lieu pour évoluer aussi.
Un espace
pour qu'aujourd'hui, on est dans ton atelier, mais en fait, tu travailles en atelier depuis le début, pratiquement.
Ouais,
qu'est-ce que... Parce que voilà, aujourd'hui, tu es dans cet atelier-là que tu partages avec d'autres artistes, avec Oz et Camille Adra, qu'on salue au passage. Qu'est-ce que le travail en atelier t'apporte? Parce que, bon, on va y venir, mais tu travailles... sur de la toile autant que sur le mur. Quel est ce besoin de travailler en atelier? Enfin, qu'est-ce que ça nourrit ta réflexion, j'imagine? Enfin voilà, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien?
Déjà, c'est rentrer dans cette bulle, quoi, où le temps s'arrête, là tu sors de la réalité, quoi. Enfin, tu rentres dans ta propre réalité où ton seul souci, c'est de savoir quelle couleur ou quelle valeur tu vas positionner à cet endroit-là pour qu'il rentre en résonance avec... Enfin, c'est un monde à part, quoi. Et je pense que ce monde-là, tant que t'as pas cette pièce, ou ce
dédié,
lieu, cet espace dédié, je le trouve très important, et on en parle souvent, c'est souvent une question aussi qui revient, que ce soit à des âges plus avancés ou 15 ans en arrière... Faut faire des sacrifices. Tu peux pas forcément financièrement te dire j'ai mon appart et mon atelier, j'ai mon machin. Moi, ça a toujours été une galère, quoi.
Et
à l'époque, on s'était mis à 5 pour ouvrir un atelier quand je suis arrivé sur Montpellier.
Ouais.
Mais c'était une libération de se dire
On a un lieu pour
t'as
bosser,
ton
quoi.
Un lieu de travail. Et c'est ce que je dis aux gens et puis aux personnes qui rentrent dans ce milieu ou qui ont déjà un pied dedans. C'est la nécessité de. Enfin, pour moi, c'est vraiment porteur. Je ne parle pas d'autres métiers créa. Je pense aux graphistes ou toutes des personnes qui touchent au milieu du. Vraiment de l'image, quoi. Mm-hmm. Même illustrateur ou autre, à la limite, si tu peux toujours travailler chez toi. Et je pense que ça dépend de chaque personne. Mais je trouve qu'il y a une réelle force à se lever le matin et se dire je vais au travail.
Ouais, je vais au boulot.
Je
ouais.
commence ma journée.
Ouais.
Et ritualiser ça. Comme ouais, si tu étais en CDI, sauf que tu es en contrat avec toi-même.
Ouais, ouais.
Et ça dépend que de toi. Et le fait d'avoir ce lieu, pour moi, c'est nécessaire, en fait. Aller à un épanouissement artistique.
Bah, je pense que, comme tu dis, ça participe à te créer un environnement propice au travail. Ouais. Aussi, bah, parce que chez soi, déjà, t'as pas forcément la place. Tu peux être happé par autre chose à la maison rapidement que là, ben, t'es un peu face à toi-même, à ta toile, à ton mur.
Donc ça, couplé à une énergie que tu partages avec tes autres potes quand il faut que ça se passe bien, évidemment.
Et oui.
Donc là, grosso modo, on a 60 mètres carrés, on est trois avec un lieu de mezzanine de stockage. Mm-hmm. Ce qui est très bien en termes d'espace.
Ouais.
Bon, évidemment, on a mieux, on a plus. C'est plus agréable
c'est
quoi, pour travailler,
mieux.
Pour se disperser, pour travailler plusieurs pièces en même temps. Mm-hmm. Mais le travailler en équipe, c'est cool aussi pour ça. C'est avoir un regard sur les choses, avoir des moments où on se pose. Il y a des moments pour déconner, il y a des moments pour bosser.
Complètement.
Et quand tu as trouvé cet équilibre, et là notamment, ça fait 3 ans maintenant que je suis dans cet atelier, donc j'ai eu 2 ateliers sur Montpellier.
Ouais.
Un premier qu'on a ouvert avec Primal et JP, Jouf, il y avait Mélanie aussi. À l'époque, on était plusieurs personnes à l'origine, quoi. Donc ça a été un point de départ, mm-hmm. qui était l'atelier Triptyque,
ouais.
donc rue de l'Université, mm-hmm. un lieu à la fois culturel et en même temps atelier d'artistes. Et le jour, et c'est pour ça que je parle de pas tout mélanger, pas mélanger maison, boulot, projet, asso. Avoir un endroit uniquement pour ça, en fait, je pense que c'est là où tu peux faire évoluer ta carrière.
Ouais.
Parce que tu arrêtes de te disperser.
Et c'est ça.
Je parle de ça parce qu'à l'époque de Triptyque, où c'était super chouette, hein, franchement, c'est ce qui nous a fait nos débuts, ça nous a permis d'autres choses, et notamment des rencontres, des relations, mm-hmm. et donner une crédibilité aussi
à ce que vous faisiez aussi.
Ce qu'on fait,
bien
donner
sûr.
Une visibilité, que ce soit aux autres artistes ou à nous-mêmes.
Ouais, puis en ayant
trop cool.
En Par ayant contre, un lieu avec Pignon sur Rue aussi, ben voilà, t'as le côté ouvert au public.
Ouais.
Du coup, donc ça c'est chouette aussi.
Mais qui est à la fois très chronophage.
Ah bah évidemment.
Et l'accueil, le machin, où tu te dois d'être disponible aussi. On se relayait pour faire les permanences pour la partie exposition. Parce qu'en vrai, ça marchait bien. On peut pas dire le contraire.
Ouais, ouais.
Mais c'est juste que c'était compliqué et on n'arrivait pas à évoluer d'un point de vue de la carrière, quoi. Il y avait l'entité Atelier Triptyque et puis il y avait nous dans notre individualité.
Ok.
Et moi, le constat, clairement, là, après 15 ans de recul, le jour où ça a commencé à marcher, pour moi, c'est le jour où j'ai pris une indépendance.
Okay.
Où j'ai tout mis de côté, où j'ai dit stop.
C'est toi j'arrête, et toi seul,
j'arrête
quoi.
De me disperser. Ouais. J'arrête de vouloir faire un truc collectif, d'avoir un lieu, on va faire du fanzine, on va faire des expos, on va faire des événements, on va faire des... C'est pas mon métier.
Ouais.
Moi, mon métier, c'est de créer ce qui m'anime le matin.
Mmh,
et ce à quoi je pense le matin, en me levant ou le soir en me couchant, c'est... Putain, qu'est-ce que j'ai envie de peindre.
Ouais. Bon, ça t'a permis aussi d'avoir un autre regard sur le milieu et de savoir ce que tu voulais pas faire.
Complètement.
Aussi.
Et ça t'apporte aussi une relation vis-à-vis des autres où tu te retrouves derrière le comptoir aussi.
Mm-hmm.
À devoir vendre le travail d'autres personnes.
Et oui, exact.
Parler,
ouais.
Et toutes ces choses-là, au final, ça te donne un vocabulaire que t'as pas forcément au début. Parce qu'en général, en tant qu'artiste, en fait, tu sais pas parler. T'es dans ton.
C'est
petit
toujours
monde,
très compliqué, hein.
T'es là, dès qu'il s'agit de. Il faut prendre un micro pour présenter une fresque ou un machin, c'est la panique.
Je suis bien placée pour le savoir. Donc, moi qui écris de plus en plus pour les artistes, je sais que vous avez beaucoup de mal à parler de vous-même. Et à la fois, c'est normal. Enfin, je veux dire, on a. C'est facile de le faire comme ça dans un moment informel, mais dès qu'on te tend un micro, comme tu dis, c'est un autre délire, quoi.
Ouais, ouais, complètement.
On va faire une petite pause musicale. Tu nous as suggéré un morceau que tu écoutes quand tu travailles, je crois, qui s'appelle No Evil de Sœur, et on revient juste après.
I
On est de retour après cette interlude musicale. Pourquoi tu as choisi ce morceau ?
Moi, c'est mon petit crush du moment.
Du moment,
ouais,
ok.
Petit bon. Crush du moment. J'en place une pour mon petit loulou là, qui m'a fait découvrir ce son. Moi, j'écoute de tout en vrai.
Okay.
Il y a juste des phases quoi. La semaine dernière, c'était cumbia. Des fois, c'est hip-hop. Des fois, c'est
très éclectique.
R&B.
Ouais, mais vous êtes tous un peu dans cette veine. Hein. C'est ce que je remarque à chaque fois, c'est qu'à un moment donné, vous avez un truc du moment, mais ça peut partir dans tous les sens. Donc, c'est très riche pour ma propre playlist.
Ouais, très bien.
Alors, du coup, on va parler un petit peu parce qu'il nous reste, encore quelques minutes. On va parler de l'univers que tu développes aujourd'hui.
Ouais.
Un univers très figuratif. Avec des codes un peu de l'art classique, si je peux m'avancer ouais. Là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui te connaissent pas en tout cas.
Là on en revient à la question de tout à l'heure, c'est très difficile
de parler de soi, de
mettre des mots clairement sur parce que c'est pas mon métier, mon métier c'est justement de peindre ces émotions, mais dans l'idée. Très clairement, ouais, il y a une grosse approche académique et figurative dans mon boulot. La peinture classique, c'est un truc qui m'a toujours techniquement bluffé. Je pense que c'était plus la dimension technique qui me rendait... La première fois que tu vois des pièces, je sais pas, je pense aux les raboteurs de Palier, de Caillebotte, qui est un de mes tableaux préférés, que tu vois au Quai d'Orsay. Je sais pas, tu pourrais une tarte. En
fait. Ah oui,
peu importe le sujet, peu importe la...
Le
et
style.
Je trouve ça dingue d'arriver à foutre une émotion dans un parquet,
ouais.
ou dans une bassine, ou dans une nature morte, ou dans
ouais,
une scène, tu prends... merde, putain, Toulouse-Lautrec qui a peint des scènes phénoménales de vie parisienne complètement folle, ou à l'inverse, des sujets beaucoup plus fermés, axés sur le portrait, ou juste dans un rapport de valeur ou de contraste, t'as une émotion et tu sais pas pourquoi ce tableau te fait un truc. Et en fait, cette émotion, je l'ai toujours eue en voyant des pièces, que ce soit en vrai ou via les écrans. Hein,
ouais.
Parce que je n'ai pas passé ma vie dans des musées non plus. Hein, je ne suis pas ce type-là, même si j'adore ça. En tout cas, du coup, je pense que ça a développé une affinité pour l'orientation technique. De me dire, OK, je veux faire ça. Après, évidemment, le faire évoluer. Donc là, je suis allé pousser les choses en peinture à huile, où je pense être capable de travailler dans des dimensions très très techniques quoi, très poussées sur une technicité où je vais aller au scalpel essayer de comprendre la hiérarchie des couches dans le travail des tableaux de maître, s'intéresser en fait je peins clairement, en tout cas quand je décide de peindre à l'huile en réalisme, peu importe le sujet, je peins de la même manière qu'on peignait il y a 5 ou 6 siècles. Donc en superposition de couches.
Oh, c'est intéressant.
Travailler en gras maigre, hein, l'idée de base de la peinture à huile, mais hiérarchiser à la fois tes layers, enfin tes différentes couches dans ton tableau, et générer de la profondeur, mais non plus par le travail des lignes ou de la perspective, et non plus juste par le travail des couleurs, mais aussi le travail de matière.
Bien sûr.
Et ça, le jour où je l'ai compris, il y a eu un déblocage.
Okay.
Là, c'est très difficile d'en parler pour les gens qui écoutent, le conscientiser. Mais en fait, il y a une infinité de techniques pour arriver à générer de la profondeur et sortir de la peinture scolaire, en fait.
Okay.
Sortir du numéro d'art où, sur la case 14, tu vas remplir avec du jaune de Naples.
Oui, oui, okay.
Et je pense qu'on est tous capables, avec de la patience et l'envie, de peindre des choses très belles. Par contre, ce qui est dur, et moi, mon challenge est là, c'est essayer de générer de l'émotion. Et non pas juste parce que le sujet est bien peint ou bien représenté, mais par ce rapport-là à la technique, où se dire, putain, comment en 3 traits... Donc là, ce qui est marrant, c'est au plus j'avance, au plus je me sépare de l'envie de faire un truc parfait.
Ouais.
Donc c'est toujours pareil, hein. Less is more. essayer de se dire, bon, maintenant que j'ai capté...
Comment je peux
pas,
faire, mais en
pas
moins...
C'est pas rétrogradé, mais c'est essayer de d'en faire moins, mais mieux. D'avoir le bon geste au bon moment. De pas tartiner la toile, en fait.
Ouais.
Là, si j'épluche une toile de 2020... au scanner, où mes toiles de maintenant, elles sont beaucoup plus maigres.
Okay.
Et par contre, je vais prioriser des hautes densités de peinture sur les zones de lumière contre des zones beaucoup plus maigres dans les zones d'ombre. Et en fait, c'est ça qui va générer une vibration et qui va générer de l'émotion, quoi.
Ok.
Ça, c'est pour la partie technique, on va dire, mes influences techniques. Sur la partie des sujets...
Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes, en fait.
C'est très féminin.
C'est très féminin.
Ça, de base, ouais, ça c'est clair. Bon, je peux pas forcément l'expliquer. Ça me fait moins vibrer de peindre un homme.
Ok,
que
bon. Après, pas besoin d'explications très intellectuelles.
D'intellectualiser ça.
Non, non. Hein.
Au-delà de ça, je pense que c'est ce rapport à la mise en scène. J'aime le rien, le vide, ou l'absence quelque part de narration.
Ok.
Et ça, c'est... mes grandes influences dans la photographie et le cinéma. Mmh. J'ai énormément de références là-dedans parce que j'ai passé beaucoup de temps à une période à regarder des films, un temps que je ne prends plus, malheureusement. Comme j'ai fait beaucoup de photographie,
okay.
J'en fais toujours, j'en parle moins et je ne le médiatise pas, mais c'est un outil qui, pour moi, est magnifique et qui a commencé... avec un amour dans les brocantes, quoi.
Okay.
Où en fait, je regardais ces appareils à souffler ou des appareils bi-objectifs ou des Rolleiflex ou des choses comme ça où j'étais fasciné par l'objet parce que je pense que de base, je suis un esthète. Je vais être rapidement attiré
par la beauté,
par la beauté d'un objet, par la beauté, par ce qu'il incarne. Et après, mon côté curiosité me dit « Mais putain, mais il va falloir le faire fonctionner, ce truc. » Et en fait, j'ai commencé à prendre des photos. Et dans ma peinture, j'essaie d'imiter aussi ce grain. Je pense qu'on est incapable de situer clairement
une
temporalité. Mmh. Et ça me plaît aussi de perdre un peu le... Là, je parle de sujets bêtes et méchants, de portraits de femmes, de bustes mis en scène. Là, je fais référence à un tableau là, que j'avais peint qui m'a beaucoup plu. On a cette grande femme là, dans un champ avec une lumière qui fait très, très irlandaise, quoi. Mmh. Où t'as ce Doberman, et enfin t'as une véritable peinture classique,
ouais, ouais.
Et qui pourrait aussi bien s'être déroulée au XXe siècle,
ah, complètement.
Il y a 400 ans.
Il y a quelque chose de très intemporel.
Et j'aime cette idée de l'intemporalité, à la fois dans la technique où tu te dis putain on dirait une vieille peinture et en même temps tu sens une modernité dans le traitement,
ouais.
Parce que tu vas créer des zones, et ça c'est l'influence peut-être plus graffiti, se dire ah là je vais faire une phase où je calme le jeu sur le fond, sauf que tu calmes pas le jeu avec un fat cap. Tu prends ton couteau, tu prends ton huile et tu viens poser un aplat avec une épaisseur et avec ton huile de lin. Enfin, c'est marrant, en fait, c'est un mélange de périodes où je vais jongler entre trois générations.
Oui, entre trois codes, des codes que tu conserves mais que tu appliques avec d'autres outils.
Ouais, complètement.
Ah, oui.
Donc ce rapport-là à l'ancien qui m'a toujours suivi, parce que j'ai beaucoup grandi, mon grand-père, mes parents étaient là, ils ont toujours été là. Mais j'ai énormément grandi avec mon grand-père aussi.
Okay.
Donc ça, je sais que mon amour des objets anciens, les sujets, là une toile que j'ai qui est sous notre nez là à l'atelier, où on a une espèce de cortège sur un immense carrosse où c'est pas clair, quoi. C'est un espèce de convoi où on sait pas si c'est une exode ou si à l'inverse. Donc il y a des présences féminines, mais c'est en train d'évoluer aussi parce que j'ai envie de me détacher de ça.
Okay.
Ça c'était un prétexte pour me faire kiffer et aussi travailler ma technicité, dont je parlais tout à l'heure. Là, maintenant, je sens qu'il y a un travail de narration qui est en train d'évoluer et qui est intéressant. Je cherche, en tout cas. Mais je me dis, c'est bête de se passer de l'architecture, de l'objet, de tout soustraire au portrait, alors que je suis capable d'aller ailleurs.
Ok.
Les animaux aussi, des choses qui reviennent. Enfin,
t'en as pas quelques-uns, des animaux.
Ouais. Non, il y a des choses qui reviennent, mais voilà, c'est très dur de l'expliquer visuellement. Ça pourrait ressembler à des photographies. Enfin, là, quand je fais des photographies de mode, presque.
Oui, c'est
après,
vrai.
Après, j'ai beaucoup d'influence aussi, je sais pas, dans le travail des vêtements, dans le travail des formes. Je vais être autant influencé par des cadrages de Wes Anderson ou quelque chose de très froid, très brutal, très photographique, très cinématographique. En même temps, je vais aller prendre une influence dans... Le styliste japonais là, Yoshi Yamamoto, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui travaille sur des vêtements démesurés, des choses très amples, très graphiques. En fait, je pense que constituer une identité, c'est pas aller puiser directement dans la peinture, ça sert à rien. C'est savoir qui tu es, toi, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'attire.
Mm-hmm.
Et moi, il y a des choses, tu peux aller chercher de l'influence n'importe où, en fait.
Ah bah oui.
La poésie, tu la trouves n'importe où. Et... Après, l'idée, c'est de mettre tout ça dans un shaker et d'essayer de se dire bon, ça me plaît.
Qu'est-ce que j'en fais
ouais. de tout ça, et d'essayer d'être créatif avec ce spectre-là en utilisant sa technique, quoi.
Et c'est sur ces mots qu'on va conclure cette interview, parce qu'on arrive à la fin du temps imparti. Merci beaucoup, Arkane, de m'avoir reçu dans ton atelier et pour toutes ces belles informations et tout ce que tu nous as dévoilé sur toi. Et à très bientôt au micro de Terrain Vague.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan, tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant, parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.